Vous avez plusieurs questions par rapport à l'alerte Amber et à ce type d'enquête. Comment ça fonctionne? C'est quoi les prochaines étapes? Pourquoi il y a des délais comme ça? On va aller discuter de tout ça avec mon prochain invité. Il s'appelle Paul Laurier. C'est un ex-policier de la Sûreté du Québec. Monsieur Laurier, bonjour.
Bonjour.
Alors, Monsieur Laurier, première question. Nous, on a remarqué que l'alerte Amber était arrivée sur le web à autour de 15h, quelques minutes avant 15h, et elle vient tout juste d'être diffusée à 15h30 sur les téléviseurs, sur les cellulaires et à la radio aussi, les messages radio. Est-ce que c'est commun qu'il y a toujours un délai comme ça?
Ben, vous savez, c'est une mécanique pan-canadienne. Les télécommunications sont gérées par Ottawa, le corps de police est provincial. On a des critères à réunir, on doit s'assurer. Il y a quatre critères. L'enfant doit être disparu, l'enfant doit être, on a un véhicule identifiable. Ici, c'est un critère qui est plus ou moins rempli. On constate que les enfants sont en danger. Donc, la police amorce l'enquête. Déjà hier, il y a un bout d'enquête. Donc, on décide de déclencher aujourd'hui. Ben là, il faut que la police avertisse les partenaires. Les partenaires vont formater et là, on formater le message, vont le valider, puis après ça, c'est en canadien, là, on, à Montréal, on vient de le recevoir. Et évidemment, on essaie de calculer le temps où le ravisseur ou les ravisseurs auraient pu, l'enfant disparu, où on peut les localiser. Donc, on peut penser que l'alerte va être pan-canadienne à ce moment-ci.
Et M. Laurier, parlons-en justement des critères pour déclencher une alerte Amber. Moi, j'étais probablement, comme plusieurs personnes, sous l'impression qu'on devait absolument avoir un véhicule pour déclencher une alerte Amber. Ça semble pas être le cas. Par contre, il faut quand même avoir un minimum de critères, là.
En fait, c'est que je prends le site de la police de Québec, a les critères, la police de Montréal, la police de la Sûreté du Québec, il y a des critères canadiens, il y a des critères américains. Mais en fait, les policiers ont des motifs raisonnables de croire qu'il y a un enfant. On parle toujours d'un enfant de moins de 18 ans. On pense que le deuxième critère, c'est que la sécurité physique est en danger. Puis qu'on pense que les informations vont permettre. Le troisième critère, c'est qu'on pense qu'en lançant l'alerte, on va recevoir des informations, on va les colliger. Donc, par enquête, on n'a pas été capable, ce que ça veut dire, c'est par enquête, on n'a pas été capable de les retrouver jusqu'à date. Le terme, on a un espace de temps hier soir, puis aujourd'hui, 13 heures. Et on sait que dans ces cas-là, le temps est très, très, très précis. La personne peut avoir été loin. On l'a vu dans d'autres dossiers où plus on prend du temps à sortir l'alerte. Puis le suspect a le temps de se cacher, d'aller dans une autre région, de passer inaperçu.
Mais justement, dans ce cas-là, est-ce que 13 heures, c'est pas un délai qui est un petit peu long pour déclencher une telle alerte, sachant en fait que les deux filles étaient disparues à compter, en fait, étaient portées, disparues à compter de 21h30 hier soir, ou du moins, on savait qu'ils n'étaient pas à la maison à cette heure-là? Là.
Ben, c'est justement le temps que, si on parle, là, j'ai mis une hypothèse, c'est peut-être pas notre dossier, on parle d'une garde partagée avant que les gens réalisent. Peut-être d'une garde partagée avant que les gens réalisent qu'il y a une disparition, que les gens manquent, sont supposés revenir à 10 heures, il est 11 heures, ils sont pas revenus, minuit, on n'a pas de texto, on appelle la police, le temps que les enquêteurs se déploient, que ça rentre dans le mécanique. Oui, c'est long, 13 heures, mais c'est pas anormal dans le contexte d'une disparition qui est plus ou moins, là, on n'a aucun doute. On sait que les enfants sont en danger. C'est pour ça qu'on a le critère qui s'est uni. On a lancé l'alerte en vrai. Ça prend une certaine longueur. Mais évidemment, oui. C'est toujours par l'enquête. Les événements rentrent au bout à goutte. Hein. On n'a jamais le portrait global à la première déclaration. Pourquoi les enfants sont là? Pourquoi? Et là, on a un véhicule, le temps que ce véhicule est retrouvé dans un autre district, ben là, comment les gens vont connecter les informations, c'est souvent des enjeux importants. Puis le temps est encore plus important.
Et Monsieur Laurier, il y a plusieurs personnes qui se posent des questions là depuis hier soir, à savoir c'est quoi le travail des policiers à partir de maintenant. On sait que là on est en attente. En fait, si on a lancé une alerte en bas, c'est parce qu'on s'attend à recevoir un certain nombre d'informations. Lorsqu'un enfant ou des enfants disparaît comme ça, une enquête là, concrètement, ça peut ressembler à quoi? On a combien d'effectifs qui sont déployés en même temps? Est-ce qu'on va encore sur le terrain? Quel type d'endroit on va visiter? Comment ça marche une enquête comme ça?
Ben, tout dépendant des corps de police, là, on parle des crimes contre la personne, on parle des crimes contre les enfants. Moi, on a des enfants ici, donc on va mobiliser les cellules, on va mobiliser une équipe d'enquêteurs. Puis à partir du moment où on a une cellule, on va rencontrer des témoins. Il y a plein d'indices, il y a plein de facteurs et d'éléments de preuve qu'on doit aller chercher très rapidement. les rencontrer les témoins, rencontrer les personnes qui sont les tuteurs de ces enfants-là légalement. Est-ce que c'est des enfants, je ne sais pas ça dans ce cas ici, là, mais est-ce que ces enfants-là ont été dans un foyer d'accueil?
Oui.
Ce qui n'est probablement pas le cas. Mais on doit rencontrer, faire ce qu'on appelle le dernier 24, et là, savoir où sont les responsables, on les rencontre, qui voit quoi, on rencontre des témoins, et plus l'enquête progresse, plus toutes les pistes, toutes les pierres vont être retournées par les enquêteurs. Et c'est de la rencontre de témoins, les pistes. La scène de crime, on l'a retrouvé, si on parle d'un crime, parce qu'évidemment, c'est une disparition. Alors, c'est un enlèvement d'enfant. On va regarder la scène de crime, on va ramasser tous les indices. Tout va être analysé, puis on parle aussi de tous les pistes technologiques, téléphone, cellulaire, l'enfant, ouais. Tablette, du père. Est-ce qu'il y a un GPS? Est-ce qu'il y avait un GPS dans la voiture? On va analyser toutes les pièces technologiques. Et comme je vous dis, ça prend l'énergie que ça prend en général, là, que les corps de police ne désignent pas sur ce type d'enquête.
Là, je ne veux pas qu'on parle de ce cas-là en particulier, mais vous avez une expérience dans la police, alors vous allez peut-être être en mesure de me répondre. Il y a il y a une information qui circule souvent lorsqu'on entend parler de disparition. On dit que souvent, si les enfants ou la personne disparue n'est pas retrouvée à l'intérieur de 24 à 48 heures, les chances de la retrouver en vie diminuent de façon exponentielle après 24 à 48 heures. Est-ce que, selon votre expérience, c'est souvent le cas? Est-ce que c'est souvent comme ça que ça fonctionne?
Ben, je vous dirais qu'en enquête, c'est extrêmement important parce que, évidemment, le facteur temps joue avec le facteur distance. Si les gens ont à se pousser, si les gens ont à aller, si on parle d'enlèvement d'enfant, souvent, les parents, l'un des deux parents qui va avoir un passeport différent, on va prendre les douanes. Le temps que là, on bloque les douanes, qu'on bloque les accès, qu'on ait accès à toutes les listes de vol, tout ça, le temps est un facteur important. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de. Je dirais, il n'y a pas de cadre parfait, il n'y a pas de temps, mais évidemment, le temps joue contre le travail des policiers dans le sens où plus les gens vont être éloignés, vont effacer les pistes, vont les repères, les cartes de crédit, tout est analysé, mais effectivement, que plus on s'éloigne du temps, plus parfois c'est difficile. Et puis des fois, c'est des disparitions ou des enlèvements, on parle souvent d'enlèvement d'enfants. C'est dans un autre pays, ça devient plus compliqué, les lois s'appliquent plus difficilement, puis il faut avoir des outils juridiques différents pour passer par des procureurs. Donc, la réponse, il n'y a pas de moule, mais plus le temps avance, plus c'est difficile de retrouver les gens.
Plus c'est difficile, effectivement. Et on sait aussi que souvent, lorsqu'il y a des alertes Amber ou des enfants qui disparaissent, dans plusieurs cas, c'est souvent un des deux parents qui est impliqué. Je me trompe pas?
Ouais, ben, dans le cas d'un alerte Amber, on doit connaître la plaque, on doit avoir déjà des liens qui sont, on sait par où ils sont partis, là, c'est dans les critères, ça permet de localiser les enfants ou le véhicule. On a déjà une idée où ils sont partis parce que des disparitions, il y en a plein, mais ouais. Là, on a les trois critères qui sont appliqués, applicables et reconnaissables. Dans ce cas ici, on a déjà quand même passablement de temps qui est passé. Et puis là, ben, ça ouvre l'avantage de l'alerte en baisse, c'est que ça ouvre les yeux à toutes les personnes. Tout le monde est sensible à la cause des enfants. Tout le monde va commencer à regarder. Tout le monde qui va avoir vu quelque chose d'anormal, qui prenait ça à l'audin sur le coup, ben, va signaler, va appeler la police. Ça passe le commandement, on va prendre les signalements, puis on va analyser. On va analyser chaque signalement. Bon, comme je dis tantôt, on retourne chaque pierre pour regarder vraiment ce que chaque signalement donne, les localisations, puis on croise les données pour voir si on peut avoir une piste pour retrouver les suspects le plus rapidement possible.
Et M. Laurier, avant de vous quitter, il y a quand même un point qui est encourageant là-dedans, c'est que l'alerte Amber a quand même démontré un certain succès dans les années passées. En fait, depuis qu'elle est en place, je pense que son taux de succès est assez élevé. Habituellement, quand l'alerte Amber est déclenchée, on est capable de retrouver les personnes quelques heures ou en fait pas très, très longtemps après, là.
Oui, parce que c'est une mécanique qui est rodée dans les pays, dans les États-Unis. Ici, ça a pris un certain temps. Il y a souvent des ratés technologiques. On a fait des tests maintenant, plus régulièrement. Les gens qui ont la licence de SCRATC pour diffuser, ben, sont toutes mises à contribution et c'est là l'efficacité parce que vous rejoignez la population canadienne, tout ce qui est branché, vous les rejoignez en un rien de temps. Donc, tout le monde ouvre l'œil rapidement et c'est les meilleurs, vous direz, les meilleurs enquêteurs. Ouais. C'est toujours les gens qui sont à l'affût, qui vont prêter un regard, qui vont regarder par-dessus leurs épaules, voir qu'est-ce qui se passe, puis de vraiment signaler. Puis les gens, dans le fond, ce qui est important pour les gens, c'est si vous avez vu quelque chose d'anormal que vous pensiez anodin, mais vous voyez deux petites filles avec un homme, ben, vous le signalez. Et puis, si c'est pas bon, c'est pas bon, mais si c'est bon, ça va amener à une autre piste qui va amener les policiers à trouver les deux filles.
Monsieur Laurier, merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est beaucoup plus clair. Merci.
Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée à vous. Paul Laurier est un ex-policier de la Sûreté du Québec. Alors, on parlait de cette histoire des deux fillettes qui sont toujours recherchées au moment où on se parle. On cherche aussi leur père, Martin Carpentier. Il s'agit de Romy et Nora Carpentier qui ont 6 ans et 11 ans. Le père a 44 ans. C'est en lien avec cette histoire qui est survenue hier soir. Je vous rappelle les faits, vers 21h30 sur l'autoroute 20 à la hauteur de Saint-Apollinaire. Un véhicule accidenté a été retrouvé. Il était inoccupé. On n'a pas été en mesure de localiser les occupants du véhicule. On a, bon, éliminé probablement certaines thèses au fil des heures et l'alerte Amber a été déclenchée officiellement sur le web vers 15h tantôt sur les ondes radio et sur la télévision. Ça a été déclenché vers 15h30. On est à la recherche du père et ses deux fillettes. Pour l'instant, on va suivre l'histoire de près. Ce qui est encourageant, par contre, et vous l'avez entendu de la bouche de M. Laurier, c'est qu'effectivement, le système d'alerte Amber a démontré un très, très gros taux de succès dans les années passées. C'est quand même spécial. Tout le monde à Québec qui est connecté ou qui est devant un média quelconque ou une plateforme quelconque a reçu cette alerte-là. Et ça, c'est un système qui est pan-canadien. Il n'y a pas meilleure façon de rejoindre tout le monde en même temps que ce système-là. Ça veut dire que tout le monde devient des policiers, finalement. Là. Tout le monde ouvre les yeux. Là.
Sauf que cette alerte-là est vraiment bizarre dans le sens où on a le véhicule, mais on n'a pas les gens.
C'est ça. Là, les gens veulent les détails du véhicule, mais c'est parce que ça sert à rien. Le véhicule est retrouvé. C'est le véhicule accidenté. Il n'y a pas de véhicule en tant que tel dans l'alerte Amber. C'est pour ça qu'on ne vous donne pas les détails. Ce n'est pas qu'on ne veut pas. C'est que ça ne sert absolument à rien. Puis on ne recherche pas le véhicule non plus. Là. On recherche les individus, en fait. On recherche le père et ses deux enfants. Alors, oui, c'est une alerte Amber qui est spéciale parce qu'habituellement, c'est vrai que dans la majorité des cas, on va avoir un véhicule avec l'alerte Amber. Là, ce n'est pas le cas présentement. C'est une histoire qui a commencé et qui était vraiment très, très, très bizarre. C'était très louche. Il y avait beaucoup d'informations qui nous manquaient, beaucoup de questions sans réponse. Et quand l'alerte Amber a été déclenchée, ben c'est devenu un petit peu plus clair. Malgré qu'on a encore beaucoup de questions sans réponse, là, mais c'est du moins un peu plus clair où s'enligne cette enquête-là. Au moment où je vous parle, il y a un communiqué de presse de la Sûreté du Québec qui vient de sortir. Je vais le lire en même temps que vous. Là, on vient juste de me l'apporter dans mes mains. Alors, voici le communiqué de presse de la Sûreté du Québec. Alors, voici la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Nora Carpentier, 11 ans, et Romy Carpentier, 6 ans, de Lévis. Elles ont été vues la dernière fois hier, le 8 juillet, vers 20h30 à Lévis, secteur Saint-Nicolas, près d'un dépanneur. Elles étaient en compagnie de Martin Carpentier, 44 ans, de Lévis. Ce dernier est aussi introuvable. Alors, on dit que hier, vers 21h30, alors qu'ils étaient dans un véhicule Volkswagen Passat 2008, immatriculé P75PXV, ils auraient été impliqués dans une sortie de route sur l'autoroute 20 Est au kilomètre 288 à Saint-Apollinaire. Lors de l'arrivée des services d'urgence, le véhicule était inoccupé et ces personnes manquent à l'appel depuis. Leurs proches ont des raisons de craindre pour leur santé et sécurité. Et là, on répète les détails que je vous ai répétés tantôt. Si vous avez des informations par rapport à ces gens-là, à cette famille-là, n'importe quelle ou sur l'accident, vous avez été témoin de l'accident, vous avez entendu quoi que ce soit. Si vous avez une information et vous pensez que cette information-là pourrait aider à l'enquête présentement, c'est très important de communiquer avec la Sûreté du Québec. En fait, on dit de communiquer avec le 911 carrément. Si vous avez n'importe quelle information, là, aussi banale à vos yeux soit-elle, on ne sait jamais à quel point ça peut être important pour le déroulement d'une enquête comme ça. Je vous rappelle que chaque minute, chaque seconde compte au moment où on se parle.
Mais là, le communiqué ne parle pas du père des enfants, mais on comprend que c'est leur père, l'homme de 44 ans en question.
Oui. C'est Martin Carpentier, effectivement. Là, ça, je pense que c'est assez clair. Mais je pense que les deux personnes qui sont recherchées présentement, ben, c'est le groupe de trois, évidemment. Oui. Mais on s'inquiète surtout pour la santé et la sécurité des deux jeunes filles.
Et aussi, l'une des choses qui a été mentionnée, il ne faut pas approcher le suspect. Si jamais vous avez un contact visuel avec ce dernier, veuillez rester à distance et contacter le plus rapidement possible le 911. Donc, on pense qu'il pourrait être dans le secteur parce que l'information des policiers, du moins la piste qu'ils ont à l'heure où l'on se parle, c'est qu'il n'aurait pas embarqué à bord d'un autre véhicule à partir de l'endroit où il y a eu l'accident hier soir vers 21h30 sur l'autoroute 20. Mais est-ce qu'il a été en mesure de se déplacer, d'aller un peu plus loin et de prendre un autre véhicule? Était-il accompagné ou pas à ce moment-là? Ce sont des informations qui, pour l'instant, restent à colliger par les policiers de la Sûreté du Québec.
Et merci beaucoup, Jonathan. Puis juste avant d'aller à la pause, bon, pour ceux qui critiquent un petit peu le délai par rapport à la police, à la Sûreté du Québec, le délai qu'ils ont pris pour lancer l'alerte Amber, pour commencer les recherches et d'impliquer la population dans les recherches. Monsieur Laurier a bien dit, en fait, il l'a bien expliqué, puis je pense qu'on peut comprendre jusqu'à un certain point. À partir du moment, hier soir, à 21h30, où le véhicule a été signalé comme étant accidenté sur le bord de l'autoroute 20, avant qu'on puisse, en fait, comprendre à qui appartient ce véhicule-là, qui était à l'intérieur, avant que les deux jeunes filles soient portées disparues par un des deux parents. Bon, tout ça, ça prend du temps, là, puis ça se fait pas nécessairement à 21h35. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'on a reçu l'alerte Amber seulement aujourd'hui à 15h, parce qu'il y avait beaucoup d'informations à colliger avant de comprendre qu'on craignait pour la santé et la sécurité de ces deux jeunes filles-là. Et surtout que lorsqu'on lance une alerte Amber, ben c'est parce qu'on a la certitude, ou du moins on pense vraiment que l'information colligée va pouvoir aider à l'enquête. Alors, c'est certain que, bon, je comprends que c'est peut-être frustrant, parce qu'on regarde l'heure à laquelle le véhicule a été signalé, puis l'heure qui est présentement, puis on se dit, coudonc, qu'est-ce qu'on fait? On a dormi au gaz, mais pas tout le temps.
Et même le message de la mère sur les réseaux sociaux. On se dit, entre ce moment-là où elle a fait sa sortie sur les réseaux sociaux et le moment du déclenchement de l'alerte Amber, il y a des gens qui peuvent se poser des questions. Mais il faut aussi comprendre que ça dépend aussi, est-ce que c'est un individu qui avait un état d'esprit qui était particulier depuis un certain temps ou c'est une décision, un coup de tête comme ça de quitter de la sorte? On ne le sait pas, donc... Et pour l'instant, il va falloir se référer aux informations que la Sûreté du Québec nous donne. Mais si vous avez des informations, n'hésitez pas à composer immédiatement le 911.
Merci, Jonathan.